Alors, bonjour à vous, cher ami internaute. Je vais commenter ce texte, mais disons le segmentant dans les quatre interprétations dites traditionnelles. Alors, si vous ne savez pas ce que sont ces quatre interprétations, je vous renvoie aux pages du site internet consacré à l'interprétation de la Bible. Elles sont d'ailleurs enregistrées et ça vous aidera à mieux les comprendre. Je ferai un petit rappel simplement. Et après chaque interprétation, il y aura un temps de silence avec un moment de prière. Donc, quand vous aurez des temps de silence, eh bien, c'est pour que vous partagiez ce temps de prière avec moi. Et de toute façon, n'arrêtez pas l'enregistrement avant que je dise fin de l'enregistrement. Il est aussi à préciser qu'il y aura un temps de silence après chaque lecture ou relecture du texte que nous allons commenter. Alors, le texte que nous allons commenter est très connu. Il se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, des versets 18 à 24. En voici la lecture. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide pareille qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » Alors, c'est le deuxième récit de la création. Je vais d'abord commencer par une petite interprétation historique, un petit rappel historique, et après une interprétation dite littérale. Quand on dit littérale, ça ne veut pas dire au pied de la lettre, mais on ne va pas trop aller dans la symbolique et rester dans la pensée de l'auteur le plus possible. Alors, donc il y a deux textes, la création. L'autre texte de la création fera aussi l'objet d'un commentaire. C'est le texte le plus récent des deux. Et lui, il montre comme un passage zoomé. C'est-à-dire que le premier texte de la création nous montre la création du monde, le cosmos, qui petit à petit zoome vers l'homme. Et là, nous avons vraiment encore un zoom plus proche de la création de l'homme. Alors, il ne faut pas y chercher une interprétation trop littérale et historique. Il faut savoir une chose sur ces récits, sous peine de discréditer complètement la pensée biblique. Ces récits ont été écrits vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, quand les Israéliens étaient à Babylone. Alors, ce texte est peut-être même encore plus ancien, puisque j'ai dit que c'était le plus ancien des deux. Disons ici, on voit l'homme, c'est juste avant, hein, l'homme qui est fait de la terre, etc. Donc il y a des influences dites babyloniennes et sumériennes, parce que c'est comme ça qu'on voyait la création de l'homme, et donc il n'y a pas, pour l'auteur inspiré, il n'y a pas de questions à se poser. C'est un petit peu comme si maintenant j'écrivais moi-même ou vous écriviez une création de l'homme. Vous utiliseriez les données scientifiques que vous avez de votre époque, qui seront peut-être caduques dans quelques milliers d'années. Eh bien ici, c'est ce qu'il a fait. Donc le sens est surtout à chercher entre les lignes et non pas dans le sens littéral. Autrement, on va penser que l'homme vient avant la femme, donc il est supérieur, des tas de bêtises comme ça, etc. Et encore, ce passage, c'est pas celui qui donnerait les interprétations les plus farfelues quand il est pris à la lettre, c'est ce qui vient avant et après. Chapitre 3 est avant du chapitre 2, du verset 1 à 18, où on voit la création de l'homme, qui est décrit comme venant de la glaise, etc., qui était la vision courante de l'époque pour ce qui est de la création de l'homme dans les récits sumériens et babyloniens. Bon, là je m'écarte un peu du sujet. Revenons au texte. Alors ici, ce qui est quand même, je disais que c'était l'auteur reprenait des idées très courantes à son époque, il y a quand même une très grande originalité. D'abord, le fait que ce soit un seul Dieu qui crée l'homme pour lui-même, et non pas créer l'homme parce que tout simplement les dieux en avaient besoin, comme un esclave. Ici, Dieu est créé pour lui-même. C'est dans le chapitre précédent où il dira que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Ici, l'autre originalité, c'est, et on est en plein dedans, la création de la femme. Alors, ce qui est intéressant, la première chose, c'est que nous voyons que notre Dieu est un Dieu de la communion. C'est pas un Dieu de la fusion qui va écraser sa créature, et pour cause, puisque c'est le Dieu Trinité. Alors, c'est cette idée de la communion, que Dieu est un être de communion et qu'il veut que l'homme rentre dans ce processus, et que l'amour finalement, puisqu'on dit que Dieu est amour, comme notre Dieu est Trinité, l'amour c'est la communion, d'égal à égal. Et donc l'homme est appelé à cette communion avec son égal, qui est la femme. C'est la première chose que le récit nous apprend. C'est pour ça qu'il montre d'abord les animaux, qui sont inférieurs à l'homme, et il met en relief le fait que la femme, elle est de la même chair que l'homme, donc avec la femme, l'homme pourra avoir une communion pleine et entière. Et voilà pour les machos. Ce texte est très révolutionnaire parce que les clichés, malheureusement, véhiculés par des gens qui n'ont pas beaucoup de culture biblique, parfois volontairement malveillants, ça me surprend toujours de voir des collègues professeurs qui sont au demeurant très intelligents faire preuve d'une bêtise et d'une immaturité incroyable quand il s'agit des textes bibliques. Il faut les prendre comme ils sont et voir par rapport à l'époque. Et par rapport à l'époque, ce texte est loin d'être macho. Parce que d'abord, je ferai remarquer que le texte, donc comme je viens de le dire, montre que l'homme est l'égal de la femme et que la femme est l'égal de l'homme. D'abord, la femme prit du côté d'Adam. Alors bon, il faut savoir une chose, le fait que l'homme soit créé avant ne veut pas dire qu'il est supérieur. D'abord, dans le texte hébreu, on parle de Adama. Et Adama, Adam, c'est l'homme au sens de l'humain, pas l'homme viril. Le latin, lui, a fait la différence entre homo et vir. Il y a des langues qui font la différence, et l'hébreu l'a fait. Donc, au début, nous avons Adama, c'est-à-dire l'être humain. Et puis, après, dans les derniers versets, vous avez l'homme qui s'écrit « Voici les os de mes os ». Et là, attention, après, quand on parle de l'homme, on dit « Ish ». « Ish », c'est l'homme viril. Et quand il voit sa femme, il dit « Cette fois-ci, voici les os de mes os, la chair de ma chair », l'homme dit alors, on l'appellera femme. Il y a un jeu de mots en hébreu qui ne peut pas être rendu en français. En fait, c'est Ish dit alors, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera Isha, la femme. Donc, vous voyez, le texte ne dit pas que l'homme viril est fait avant la femme femelle, si vous voulez. Mais il faudrait rendre ça comme ça, l'homme, puis après le mâle et la femelle. Et je ferais remarquer que même si on prend le texte de manière trop littérale et on dit, bon, Adam, en tant qu'homme viril est créé avant, le fait que la femme soit tirée de la côte d'Adam montre une chose, c'est qu'elle elle a été créée pour être côte à côte avec l'homme, pas derrière. Et ça, c'est quelque chose de très révolutionnaire. Parce que dans beaucoup de textes mythologiques de l'époque, la femme était une créature au service de l'homme. Eh bien, dans la Bible, c'est pas le cas. Ici, la femme est tirée du côté de l'homme, donc elle est côte à côte au sens littéral et figuré, donc elle est son égale. c'est ce que l'homme va dire. Et on voit que l'homme a un cri d'émerveillement devant la femme pour dire, mais c'est elle qui va faire mon bonheur, c'est parce que c'est mon égale et je pourrai avoir une communion pleine et entière avec elle. Donc le texte, je pense que ça ne vous a pas échappé, avec la comparaison avec les animaux, montre bien que la femme est de la même nature, donc elle est l'égale de l'homme, elle est de même nature que l'homme. Bon, il fallait le signaler tout de même. Si vous voulez, le sens littéral de montrer la beauté du couple humain. Ça n'a pas échappé à Jésus, hein, qui le cite dans l'évangile de Matthieu, quand on lui demande si l'homme peut répudier ou divorcer de sa femme à volonté, comme l'Ancien Testament le disait et que le Coran le dit encore, eh bien Jésus nous ramène à la création, il a fait homme et femme, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Je fais remarquer qu'on accentue en plus le côté de l'égalité entre l'homme et la femme, au sens où ils sont communion, parce qu'on dit à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, c'est encore une relation de dépendance par rapport à vos parents, vous n'êtes pas sur le même pied. Dans la Bible, vous devez honorer votre père et votre mère. Alors que là, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et Paul le dit, quand on fait qu'un avec quelqu'un, on a une communion spirituelle avec. Et donc, si on dit ici que l'homme ne fait qu'un avec la femme, c'est que tout simplement, ils sont appelés à une égalité parfaite. Alors, qui dit égalité, il faut faire très attention, on ne dit pas fusion ou conformité. Et c'est bien le problème du féminisme et du machisme. Enfin, là, on pense plutôt au féminisme, parce que c'est plutôt les femmes qui ont dû lutter pour avoir l'égalité avec les hommes. Égalité ne veut pas dire que la femme est comme l'homme. C'est bien parce que la femme est différente de l'homme, qu'elle est complémentaire, qu'elle va être son égale. Et là, le texte biblique est très important, parce que il nous rappelle qu'ils ne feront plus qu'un, non pas par fusion, mais par communion. Et là, tout à l'heure, nous verrons avec la Trinité le parallèle frappant. Et donc, quand la Bible dit que l'homme et la femme sont des égaux, c'est par le mode de communion. C'est-à-dire que si l'on veut avoir une union entre conjoints, il faut que chacun garde sa spécificité, et notamment sa spécificité sexuée. Et tant pis pour ceux qui sont partisans de la théorie du genre, cette invention stupide et contre nature. Parce que la femme et l'homme sont sexués, et c'est dans le sens où ils se reconnaissent bien d'abord distincts et originaux, différents de l'autre, qu'ils pourront arriver à une communion pleine et entière. Et ça marche aussi pour l'amitié et pour toutes les relations humaines. Vous avez une relation, disons, plus riche si vous reconnaissez l'autre comme votre égal en dignité. Autrement, si vous essayez de l'écraser, vous ne vous aimez que vous-même et l'autre ne sert à rien si ce n'est qu'il est un jouet pour vous. Et donc il n'y a pas de réelle communion. Donc voilà, c'est ici vraiment, la Bible nous le rappelle. Donc je vous propose d'abord un petit temps de silence. Juste avant, tout de même, rappelons que l'homme donne un nom aux animaux. Dans la Bible, donner un nom, c'est assurer sa domination sûre. Et effectivement, quand vous connaissez le nom de quelqu'un, quelque part, vous avez déjà un pouvoir sur lui, puisque quand vous l'appelez, il va se reconnaître et il va venir. Et c'est pas rien si Dieu donne un nom dans la Bible. Dieu donne son nom à Moïse, même si c'est un nom qui dit Yahvé, je suis celui qui suis, il donne quand même un nom. Et c'est pas rien. Et quand il s'est fait homme, il a ce nom, c'est Jésus. Et il a voulu vraiment rentrer en relation avec nous, et pas en dépendance, mais il a voulu quand même être à notre service, puisque maintenant on peut l'appeler par son nom et il répond. Et bien c'est de ce même ordre quand l'homme donne un nom aux animaux, sauf que là c'est vraiment pour assurer sa domination sur eux, alors que pour la femme il dit simplement Isha, c'est-à-dire c'est comme lui mais il met au féminin, et donc il ne lui donne pas un nom propre pour assurer la domination sur elle. Donc voilà, donc je vous propose un petit temps de silence avant de relire le texte et pour passer à une autre interprétation plus profonde. Maintenant, je voudrais faire une petite prière. Oui, Seigneur, eh bien merci parce que tu es un Dieu qui nous appelle à la communion. Et vraiment, apprends-nous, Seigneur, à rentrer dans cette dynamique de la communion qui t'est si propre à toi, ô le Dieu Trinité, notamment entre hommes et femmes. Et si nous sommes mariés ou fiancés, eh bien apprends-nous vraiment à avoir une relation avec l'autre basée sur la communion, c'est-à-dire le respect de l'autre dans la différence pour arriver à une plus grande complémentarité. Oui, Dieu, vraiment, donne-nous cet amour. Amen. Alors, je vous propose une relecture du texte. Alors, lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel, fit la terre et le ciel, il dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide pareille qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Alors avant de passer à l'interprétation suivante, je voudrais quand même faire remarquer de nouveau la sollicitude de Dieu. Hein. Dieu amène, fait les animaux pour l'homme, entre parenthèses, ça veut dire que l'homme a une place à part dans la création, n'en déplaise à certains courants écologiques qui ont la haine de l'être humain et qui disent que l'être humain ferait mieux de ne pas être là et le monde serait plus heureux. C'est pas comme ça que Dieu l'a voulu. Ça nous donne une responsabilité d'ailleurs vis-à-vis des animaux de la nature, entre parenthèses, mais une responsabilité de celui qui, ici, comme dans le jardin d'Éden, qui va entretenir, qui va avoir domination, et donc pour arriver et pour entretenir et prendre soin d'eux. Alors, donc la sollicitude de Dieu. Alors, le texte littéral, évidemment, nous montre un Dieu qui fait comme des essais, et puis il se rend compte, hein, c'est pas le bon truc. Ici, c'est une vue du biblique, comme on dit anthropologique. On voit que c'est un texte très ancien. L'auteur biblique, avec ses limites humaines, imagine le réel, enfin imagine la création à l'image de ce qu'il voit dans le réel par des tâtonnements, et il nous montre un Dieu qui est à la fois transcendant mais qui a quelques caractéristiques humaines. Il ne faut pas s'en offenser, bien au contraire, mais surtout pas le prendre littéralement. Évidemment, Dieu sait ce qu'il fait dès le début, mais c'est bien aussi pour montrer la différence entre l'homme et la femme, et la femme entre parenthèses, sa différence de nature avec les animaux. La relation qu'aura l'homme avec la femme ne pourra jamais être celle qu'il a avec les animaux, puisque ce sera une relation d'égal à égal. Donc maintenant, ici, je voudrais passer à une interprétation dite allégorique, centrée sur la personne du Christ, et qui va se faire symbolique. Alors, ici, quand même, ce qui est très frappant, alors, faut pas prendre le texte chronologiquement, c'est-à-dire premier verset jusqu'au dernier, et puis pas verset par verset, parce que on peut pas interpréter tous les versets à la lumière de l'interprétation allégorique ici, autrement on aboutirait à des choses un peu stupides. Mais l'idée générale est quand même très frappante. Nous avons ici quand même un éclairage que l'auteur biblique n'avait pas en tête, hein, mais c'est l'Esprit Saint qui l'avait en tête, c'est lui l'auteur en profondeur. Il y a une révélation sur quand même la Trinité. Et ce texte est éminemment, trinitaire dans le sens où il nous montre quelque chose de la relation entre le Père et le Fils. Maintenant, regardez bien. On va dire que, et c'est pas forcé du tout le texte, parce que c'est assez naturel ce parallèle, Dieu fit, donc c'est le Père, donc voilà, le Père fait la création, et il y a une différence énorme entre le Père et la création, c'est une différence de nature. L'homme est invité à être divinisé par communion et par adoption, mais pas par nature. L'homme n'est pas Dieu par nature, contrairement à ce que certaines religions, disons, orientales disent. Pardon. Donc, l'homme et Dieu sont fondamentalement différents. Comme l'animal est fondamentalement différent de Dieu. De Dieu et de l'homme, je voulais dire de l'homme. C'est parce que l'animal, à la fois, il partage des caractéristiques avec l'homme, hein, sur le corps, la biologie, mais on voit quand même, il suffit d'observer, au niveau intelligence, quelle différence. Eh bien, entre l'homme et Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Voyez. Et puis, il y a cette femme où on s'écrit, enfin, l'homme ici s'écrit, mais là c'est différent, c'est la même nature que moi. Eh bien, imaginez-vous, le Père, eh bien, le Père est là, vous avez les animaux qui sont la création, et puis vous avez la femme qui est un symbole du Christ. Car le Christ, il est Dieu né de Dieu, comme dit notre credo, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. C'est la même chose que, eh bien voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Jésus, il a le même rapport au Père que la femme à l'homme dans ce texte. Jésus, le Verbe, le Fils, eh bien il est de même nature que le Père et il a une communion pleine et entière, d'égal à égal avec le Père. Et pourtant, il est fils et il n'est pas le Père, comme la femme n'est pas l'homme. Comme je disais tout à l'heure, l'homme et la femme sont bien égaux, mais différents. Eh bien, le Père et le Fils sont égaux en nature, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Et notre Dieu Trinité est un, évidemment, un en nature. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, comme il y a une seule nature humaine. Donc il y a une seule nature divine. Donc il y a bien un seul Dieu. Mais ce Dieu fait aussi un, parce que, comme le dit Saint Jean dans sa première épître, parce qu'il est amour. Et c'est sur le mode de la communion. Alors là, le parallèle peut aussi être fait. Bien sûr, l'humanité, il y a une nature divine, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à cette communion pleine et entière de la Trinité, cette communion d'amour. Et quand on dit que Dieu, c'est trois personnes en un seul Dieu, c'est bien sûr, on parle de la nature, mais aussi parce que ils ont unité de volonté. Il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de dissension, parce qu'ils sont un dans l'amour. Eh bien, c'est vraiment ce texte qu'il nous apprend. Et nous sommes appelés, entre hommes et femmes, et entre êtres humains tout simplement, à avoir cette communion. Donc il faut nous tourner vers le Dieu Trinité pour avoir cette communion. Et justement, rappelons aussi, quand on voit Jésus dans les évangiles, que Jésus, notamment dans l'évangile de Jean, dit à la fois qu'il est un avec le Père, mais il dit aussi que le Père est plus grand que lui. Bien sûr, il parle en tant qu'homme, et bien sûr, il dit aussi que le Père est le seul à connaître la date de la fin du monde. Il parle en tant qu'homme, et c'est un appel, nous, à nous faire petits devant Dieu. Mais il y a quelque chose de fondamental, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus sait probablement, évidemment, la date de la fin du monde. Jésus est un avec le Père, donc le Père n'est pas plus grand que Jésus en termes de nature. Mais il est celui qui l'a engendré, il est celui de qui tout vient, et comme un fils doit le respect à son Père, le fils, disons, n'est pas subordonné au Père, mais il a une relation avec le Père comme celui qui reçoit du Père la vie. C'est en ce sens seulement qu'il dit que le Père est plus grand que lui et que le Père lui seul connaît la fin du monde, c'est-à-dire que là encore Jésus reçoit toute sa connaissance du Père. Il dit d'ailleurs, ma nourriture c'est de faire la volonté du Père. J'espère que je vous fais bien comprendre. Donc le Père et le Fils sont un, mais le rapport n'est pas le même, c'est le rapport comme un homme et une femme. Sexuellement c'est vraiment très clair. Quoi qu'en disent maintenant nos théoriciens modernes avec la théorie du genre, il n'y a pas plus clair sexuellement. L'homme donne à la femme reçoit de l'homme. Et c'est comme ça qu'on enfante. Ça ne veut pas dire que la femme a un rôle inférieur. Parce que l'homme sans la femme, il ne pourrait pas avoir d'enfant. Donc, là, l'enfant est produit, est le fruit du don du père et de la réception de la femme, et les deux sont tout à fait aussi essentiels. Eh bien, c'est la même chose entre le père et le fils. Le fils reçoit l'amour du père et lui rend en retour, et c'est l'Esprit Saint le fruit. Eh bien, il y a égalité totale, mais c'est pas le même rôle. Et donc, le drame de l'humanité, et notamment les relations entre les hommes et les femmes, c'est de vouloir être comme l'autre, et c'est une relation de pouvoir, et non plus d'amour. Donc ce texte de la Genèse est éminemment égalitaire, mais dans un sens profond, par le sens de la communion, et il nous renvoie à la Trinité. Donc voilà, alors maintenant regardez, hein, ça s'éclaire différemment. La relation Dieu, on fait les animaux, il donne un nom, et tout d'un coup, le Fils, l'engendrement. Voilà les os de, l'os de mes os. Alors quand on dit engendrement du Fils, là aussi il faut faire attention. Il n'y a pas une chronologie, évidemment. Il n'y a pas un moment où le Père était tout seul, et puis après il y a le Fils qui est venu. Donc c'est là où le sommeil mystérieux qui tombe ne doit pas du tout être pris littéralement. Simplement, c'est une manière de dire que le Père, dans ce sommeil mystérieux ici, si on le prend dans une perspective allégorique, hein, le Père, eh bien, tout simplement, il se donne totalement au Fils. Il s'abandonne. C'est le symbole du sommeil, si vous voulez. C'est comme ça qu'il doit être interprété dans ce type d'interprétation, pas autrement. Et quand on dit que le Fils est engendré du Père, ça ne veut pas dire chronologiquement, mais ça veut dire que le Fils se reçoit du Père, que le Père est don et que le Fils reçoit du Père. Il reçoit comme l'homme reçoit de l'homme, comme la femme, pardon, reçoit de l'homme la semence de vie pour faire un enfant. C'est un peu dans ce sens-là, si vous voulez. Le Fils reçoit sa vie du Père dans cette relation d'amour. Le Fils se laisse aimer par le Père, reçoit l'amour du Père et lui donne en retour. Vous voyez, cette relation, et le parallèle avec le couple est facile à faire. Donc voilà, concrètement maintenant, que tirer de cette interprétation? Eh bien, c'est de savoir que si vous voulez une relation de couple, ou même humaine, d'amitié avec l'autre, eh bien, le maître, c'est la Trinité. Dieu, Trinité, est la personne qu'il faut prier. Bien sûr, lui seul, ce Dieu Trinité, peut nous apprendre la communion pleine et entière. Et c'est d'ailleurs très frappant que dans les autres religions qui n'ont pas découvert cette révélation, la relation humaine est biaisée dès le début. Le Coran, l'islam, la relation entre la femme et l'homme est totalement faussée. Parce qu'ils ont un Dieu tellement écrasant que l'homme en devient écrasant par rapport à la femme. Parce qu'il y a quand même un modèle qui se reproduit. Votre vision de Dieu va découler vos rapports humains, notamment entre les hommes et les femmes. Dans le bouddhisme, où le néant est le résultat finalement total et espéré, le nirvana, on a une négation de la personne humaine grave avec la réincarnation, dans l'hindouisme aussi. Et les rapports entre les hommes et les femmes ne sont pas non plus très sains et entre les différents êtres humains. Et on est moins sur le mode de la communion que sur un mode, non pas la domination comme l'islam, mais de détachement. On fuit l'autre, voyez. Alors bref, cette parenthèse étant là, je vous encourage, et nous allons faire tout de suite, à prier notre Dieu pour vraiment nous apprendre à vivre la relation trinitaire dans notre vie d'homme. Seigneur, oui vraiment, nous te demandons, Père, de nous apprendre à aimer l'autre avec délicatesse, mais dans un investissement plein et total, sans tricher, comme tu le fais pour ton Fils. Oui, Père, aide-nous. Aide-nous, Jésus, à savoir recevoir des autres en les traitant comme nos égaux, à pas vouloir donner tout le temps, mais aussi savoir recevoir en n'écrasant pas l'autre. Oui, Seigneur, apprends-nous, Jésus, l'écoute, pour mieux justement aimer l'autre. Esprit Saint, apprends-nous vraiment à communier avec nos frères, dans l'unité et la diversité, comme tu l'as fait dans la Pentecôte, où tout le monde était un, mais chacun entendait les apôtres dans leur propre langue. Apprends-nous que un, c'est faire un par la communion et non pas par la fusion ou l'écrasement de l'autre. Apprends-nous, ô Dieu, à aimer. Amen. Je vous propose maintenant la troisième interprétation, dite morale ou anthropologique. Elle sera orientée vers une perspective de la vie quotidienne, mais là on l'a déjà vu dans la toute première interprétation. Elle va aussi nous aider dans notre relation par rapport à la vie intérieure. Donc je vous fais d'abord encore la lecture de ce texte, une troisième fois. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Je vais lui faire une aide pareille qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Alors je reviens sur le tout dernier verset et puis l'interprétation précédente. Vous voyez, quand je lis le texte, il me revient des choses. Oui, tous deux ne feront plus qu'un. On voit très bien la Trinité, le Père et le Fils, l'union. Hein. Je ferai aussi remarquer que les animaux, on dit bien que ce sont des êtres vivants. Donc c'est bien quelque chose de différent pour l'auteur biblique. L'animal est déjà un cran au-dessus du végétal. Et donc attention au respect des animaux. Hein. Cela, il fallait le dire tout de même, hein, parce que là, le texte biblique montre bien, d'ailleurs dans la Genèse au chapitre 6 ou 7, avant que ce soit le 8, enfin, c'est en sortant de l'arche, Dieu dit bien à Noé que quand il tuera un animal, il le vide de son sang, parce que la vie est dans le sang. Alors, c'est la première fois que Dieu autorise dans la Bible l'homme à manger un animal. Parce qu'avant Noé, il faut croire qu'on est tous végétariens, selon l'auteur biblique. Alors simplement, ça veut dire que l'animal, c'est déjà autre chose. Il y a un respect qui lui est dû, comme à tout être vivant. Mais là, il y a quelque chose d'important. Donc attention à chasser pour s'amuser, à tuer dans les abattoirs les animaux de manière inutile. Il y a un respect de l'animal à avoir. Et d'ailleurs, bibliquement, quelle interprétation stupide d'ailleurs des témoins de Jéhovah qui refuse transfusion sanguine par rapport à ce que je viens de dire avec Noé là, qu'il faut vider le sang d'un animal donc parce que la vie est dans le sang. Ça se fait encore dans certaines tribus africaines. Quand on tue un animal, on le remercie de nous nourrir en nous donnant sa vie, simplement de la part d'auteurs bibliques, une manière de nous dire que chez l'animal il y a quelque chose d'infiniment sacré et qu'on ne le tue pas comme ça, mais que c'est seulement par nécessité. Et il faut bien en être conscient. Donc voilà, cette parenthèse étant finie, je vous propose la troisième interprétation. Alors ici, vous voyez, on va rebondir sur l'interprétation littérale, parce que c'est quand même celle de la toute première, c'est celle qui doit être notre guide, comme elle l'a été pour l'allégorie. Alors d'abord, remarquons que, l'homme se sent seul parce qu'il n'a pas une aide. Et là, le texte va nous donner un secret pour ne pas nous sentir seuls. Et vous avez deux façons d'appréhender les relations avec l'autre, et donc d'évangéliser aussi, attention. Traiter les autres comme des animaux, je vais m'expliquer, hein, ou comme la femme. Alors, ça veut dire soit on va donner un nom, c'est-à-dire procéder par rapport de domination avec l'autre, et dans l'évangélisation, attention, si l'on veut vraiment révéler le Christ à l'autre, il ne faut pas arriver, je suis meilleur que toi. Le Christ donne une parabole d'ailleurs du publicain et du pharisien. Je confonds toujours, c'est plus c'est Luc 10 ou Luc 18. Enfin bref, qui est très éclairante, hein, le pharisien méprise le publicain. Et le publicain, se sent tellement pécheur devant Dieu. N'ayons pas l'attitude du pharisien qui est écrasante. Luc 7, où vous avez la femme qui nettoie avec ses larmes et ses cheveux et du parfum les pieds de Jésus. Et Simon le pharisien juge cette femme, elle est pécheresse, et Jésus lui fait remarquer qu'elle aime beaucoup parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et donc Jésus rentre dans un rapport d'amour avec la pécheresse, donc il la traite comme un être humain, comme un égal. Et donc nous gardons-nous bien, avec nos frères non-croyants, non-chrétiens, d'avoir, vis-à-vis des autres religions aussi, d'avoir une attitude de supériorité méprisante. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut naïvement dire on a tous le même Dieu, ou que voilà, on a quelque chose à apporter aux autres, qu'ils soient d'une autre religion ou non croyant, c'est clair. Autrement, vous pouvez jeter Saint Paul et même Jésus hein, à la poubelle, il est venu pour quelque chose. Mais il faut le faire sur le mode de l'amitié, de la communion, et pas sur le mode de la domination. Dans les rapports humains, sans penser à l'évangélisation, nous avons exactement la même chose. Donc vous avez le choix. Si vous traitez les gens sur un rapport de domination, leur donnant un nom, hein, comme le dit la Bible, comme les animaux, hein, donner un nom, donc asseoir sa domination, vous voulez pouvoir sur elle, et vous sentirez infiniment seul, parce que, quelque part, vous n'aimerez que vous-même à travers les autres. Et donc, vous manquerez le coche de vous laisser enrichir. Et moi, je dis que dans les sociétés où la femme est traitée comme un chien, eh bien, l'homme, c'est le premier puni, bien sûr, la première victime, c'est la femme, mais l'homme est le premier puni de son attitude. Parce que si vous avez une femme, 4-5 femmes, et que vous les traitez comme des objets sexuels, vous manquez quand même la communion avec votre femme, et d'avoir un être humain qui deviendra une aide parce qu'elle est votre égale et vous pouvez partager avec. C'est tellement évident. Ce texte biblique est tellement rempli de bon sens. On voit que l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui est proche du raisonnable, vous voyez. Enfin, il est la source de toute raison, donc c'est normal. Et vous avez après le rapport avec la femme dans le texte, c'est-à-dire là on s'émerveille et on dit il est comme moi, côte à côte, c'est ish isha, les os de mes os, la chair de ma chair. Et c'est comme ça qu'il faut procéder dans les relations humaines, hein. C'est ce mode de communion, c'est-à-dire que même si une personne vous paraît moins bien que vous, elle a moins de culture, elle n'a pas la même foi, elle n'a pas ceci cela, il faut vous mettre à l'écoute, comme j'ai dit dans la prière, tel le Fils par rapport au Père qui se reçoit. Il faut se mettre à l'écoute de l'autre, et alors vous rentrerez en pleine communion avec. Alors pour l'évangélisation, c'est très important. Parce que vous n'amènerez des gens au Christ que, bon, d'abord c'est le Christ, il faut être à l'écoute de Dieu. Et c'est lui qui agit, il est déjà présent dans le cœur de l'autre. Donc vous devez épouser l'action de la grâce. Mais disons, prenons cette expression, amener des gens au Christ. Hein, avec des nuances, bien sûr, mais bon. Vous n'amènerez des gens au Christ que si vous les respectez et s'ils sentent de votre part de l'amitié. Alors je pense, par exemple, à des gens qui peuvent nous agacer ou avec qui on n'a pas envie de communier parce qu'il y a tellement de choses différentes. Alors vous avez l'attitude par rapport aux animaux, vous donnez un nom, vous restez sur le mode extérieur de domination, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous avez l'attitude de l'homme qui s'émerveille devant sa femme, et il s'émerveille, donc il prend le temps de regarder. Hein. Et c'est comme ça qu'il va arriver à ne faire plus qu'un avec. Eh bien, dites-vous bien que les gens qui vous agacent, etc., ils ont des souffrances. Prenez le temps d'être à l'écoute de leurs souffrances, d'essayer de les comprendre. Alors vous verrez que ces gens qui vous paraissent superficiels ou avec qui vous ne pouvez pas entretenir de relation à première vue, eh bien, vous apprendrez petit à petit à les apprécier. Et comme ils sentiront chez vous eh bien, plus de compréhension et moins de jugement, eh bien, vous entrerez sur un mode de relation avec eux, et alors là, vous épouserez vraiment le travail de la grâce, et vous deviendrez un témoin efficace. Pareil pour votre propre vie intérieure. Vous pouvez vous mépriser, vous pouvez essayer de dominer tout ce qui ne vous plaît pas dans votre inconscient, mais vous allez être frustré et vous allez vous sentir bien seul et refoulé. Accueillez vos défauts, accueillez vos faiblesses, comme l'homme accueille la femme, ici dans le texte, et vous verrez que si vous êtes à l'écoute de vos faiblesses, eh bien vous les confierez à Dieu, et alors, au lieu de les refouler, eh bien vous les laisserez se transformer par vos efforts, mais vos efforts qui seront conduits, guidés par la grâce. Et le texte nous donne d'ailleurs le mode de fonctionnement pour entrer dans une pleine communion. Eh bien, c'est ce sommeil mystérieux. C'est l'abandon. C'est-à-dire que si vous voyez, pour arriver à avoir une relation avec des gens qui vous paraissent difficiles parce qu'ils n'ont pas la même foi, parce qu'ils n'ont pas, ils ont des défauts qui vous insupportent, ou vous-même, vous avez des choses que vous ne pouvez pas supporter, ou vous en voulez pour telle ou telle mauvaise action, etc. Il y a beaucoup d'orgueil d'ailleurs dans le remords et sans vouloir d'avoir mal agi, eh bien, laissez-vous endormir par là. Ça veut dire, abandonnez-vous à la grâce de Dieu, ce sommeil mystérieux. Et alors Dieu pourra prendre de ce rapport de domination avec l'autre, il pourra en faire une belle relation d'égal à égal. Il pourra tirer cette côte à cette côte et en faire une femme. C'est-à-dire que si vous abandonnez à Dieu, eh bien, et vous voulez aimer à en vous laissant guider par Dieu, façonner par lui, les personnes que vous voulez lui amener, les personnes avec qui vous êtes en contact, eh bien, il va en faire quelque chose de très beau, et il va transfigurer cette relation d'amitié, de couple, cette relation d'évangélisation, pour que vous ne fassiez plus qu'un avec l'autre personne, c'est-à-dire que vous allez la comprendre, la voir de l'intérieur, parce que Dieu vous donnera un regard différent. De même pour vous, vous allez faire un. Ce mot d'unité que les religions orientales cherchent désespérément et qui n'arrivent pas à trouver, ce mot d'unité que dans la Bible, symboliquement, vous avez le peuple qui est dispersé dans l'exil et Dieu promet toujours par les prophètes de rassembler, comme le Christ va rassembler. Comme à la Pentecôte, l'Esprit Saint rassemble le peuple de Dieu. Symboliquement, l'homme est divisé, il est esclave de ses pulsions, il ne domine pas les choses de son inconscient. Eh bien, abandonnez-vous à la grâce, à ce sommeil mystérieux du chirurgien qu'est Dieu. Abandonnez-vous à Dieu, laissez-le faire, et tout en le laissant faire, laissez-vous guider pour qu'il oriente vos efforts, parce qu'il y a un travail à faire, mais c'est Dieu qui est premier. Eh bien, vous verrez que l'unité se fera en vous. Que vous refoulerez beaucoup moins de choses et que vous apprivoiserez ce qui vous fait peur en vous, vos peurs, etc., et que vous ne ferez plus qu'un, c'est-à-dire que votre inconscient, votre conscient, eh bien, ne feront plus qu'un parce que vous serez abandonné au sommeil mystérieux de Dieu, l'abandon à Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si je résume, et on le fera aussi dans la prière, eh bien, Dieu va faire l'unité en vous, l'unité avec les autres, si vous acceptez de passer d'un mode de domination à un mode de communion, en vous abandonnant à ce chirurgien instructeur qu'est Dieu, qui vous apprendra à aimer, lui qui dans la Trinité aime parfaitement, qui sait se mettre à l'écoute de l'autre pour mieux lui donner et recevoir de lui, et ainsi la communion est pleine et entière, et vraiment on ne fait plus qu'un. Donc voilà, je propose une petite prière maintenant. Ô Seigneur, nous voulons souvent amener des gens à toi et nous le faisons d'une manière maladroite et méprisante. Apprends-nous que l'évangélisation, c'est marcher côte à côte avec les autres. C'est d'abord pas forcément parler, mais aimer surtout. Seigneur, apprends-nous à aimer les autres en étant à leur écoute, en étant à l'écoute de ton esprit, en nous abandonnant à l'action de l'esprit qui va nous révéler les blessures qui font que telle personne réagisse en surface de telle ou telle manière, et ça nous aidera vraiment à les comprendre, pour ne faire vraiment pour communier, ne faire plus qu'un avec ces personnes, ne pas rester de l'extérieur par rapport à eux, mais vraiment comprendre ce qu'ils vivent de l'intérieur. Oui, Esprit Saint, guide-nous, montre-nous les blessures des autres, et aide-nous à comprendre pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Ainsi nous les aimerons davantage et nous ne ferons plus qu'un parce que nous les verrons de l'intérieur. Amen. Apprends-nous aussi, Seigneur, à reconnaître nos faiblesses et à te les confier, et à nous émerveiller du travail que tu fais en nous intérieurement, malgré parfois les apparences. Donne-nous ce regard d'émerveillement sur le travail que tu fais en nous et en nos frères. Amen. Je voudrais maintenant passer à la dernière interprétation. Je vais d'abord relire le texte encore une fois. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide pareille qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Alors de nouveau, là, en lisant le texte, je rappelle que ce Dieu qui façonne les bêtes des champs, etc., c'est donc comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. Hein. Bon, c'est aussi symboliquement ce Dieu qui s'investit. Et c'est aussi pour nous montrer que la vraie écologie chrétienne, c'est vrai que nous sommes avec la terre, nous avons une union de nature, c'est la matière. Et donc, nous lui devons respect, parce que Dieu nous confie de l'entretenir. Et puis je ferai remarquer que, je n'ai pas assez insisté sur le fait de quitter son père et sa mère, c'est ne faire plus qu'un, eh bien, c'est quitter ce rapport un petit peu de dominé-dominant, hein, pour aller vers un rapport vraiment plein et entier de communion, d'égalité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en ayant un regard par rapport aux gens en profondeur que nous donnera l'Esprit, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre de l'intérieur, et à se laisser guider et comment dire façonner dans notre amour pour l'autre par rapport à ce qu'il peut vivre et ce qu'il ressent. Donc on quitte la relation père-mère dominée, si vous voulez, dominant, à une relation égalitaire. Alors maintenant la dernière interprétation dite anagogique, c'est-à-dire tournée vers les fins dernières, le ciel, eh bien ici, si vous voulez, vous avez quand même le texte. Vous avez donc le sommeil et après il y a l'émerveillement. Et déjà, là il y a une préfiguration de la mort, ce sommeil qui nous fait si peur. Et pourtant le texte nous dit qu'au-delà de ce sommeil, il y aura un regard émerveillé pour une communion plus pleine et entière avec Dieu et avec nos frères. C'est le paradis. Le paradis n'est pas un lieu où on s'ennuie. Ça aussi, quel cliché, vraiment, je suis des fois tellement navré de certaines stupidités que j'entends. C'est le paradis, c'est le paradis parce que la communion avec l'autre, et à commencer avec l'autre avec un grand A, est pleine et entière. Et chacun, à commencer par Dieu, devient l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on peut aussi voir ce texte comme ça. Le Seigneur nous endort par la mort, et quand nous nous réveillons de l'autre côté, là le Seigneur peut enfin dire, l'os de mes os, la chair de ma chair, parce que de l'autre côté, la communion entre Dieu et nous sera vraiment pleine. C'est ce que dit la première épître de Jean, c'est ce que dit la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. Là, nous le voyons encore comme un miroir. C'est flou, mais quand on aura la vie, enfin, comment dire, la vie éternelle, quand on sera au paradis, nous verrons tel que nous sommes et nous verrons Dieu tel qu'il est. Et donc, il y aura cette communion pleine et entière, qui n'est pas encore là, et il faut passer par ce sommeil mystérieux. Alors il y a le rapport aussi, les animaux, alors vous avez, finalement cette vie, Vous pouvez la voir différemment. Vous avez une conception, bien sûr, la vie éternelle, il y a cette vie qui n'est pas la même, il y a la mort, c'est ce que je viens de dire. Et après, la communion pleine et entière. En lisant 1 Corinthiens 15, c'est clair. Le mortel revêt l'immortalité, etc. Mais il y a quand même, Jésus dit déjà, hein, dans le chapitre 11 de Jean, après la résurrection de Lazare, que quiconque croit en lui, même s'il meurt, vivra. La vie éternelle, d'ailleurs le premier épître de Jean, quand il écrit à la communauté à qui il écrit, il dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez au présent la vie éternelle, pas que vous aurez. Alors vous avez la façon de concevoir les choses, cette vie, eh bien, ça en est un peu comme les animaux, c'est-à-dire nous sommes dominés par le péché et cette vie, elle est bonne à rien. Il faut la subir, hein, subir, domination. Et nous sommes dans un rapport par rapport à cette vie un peu comme les animaux, c'est-à-dire nous sommes dominés par le péché, par tout ça, par la vie, par les circonstances, etc. Et alors on se sent bien seul et on ne trouve pas d'aide qui nous corresponde parce que on sent un Dieu bien lointain à l'image de l'islam. Ce Dieu, il nous aide pas beaucoup, il nous laisse nous débrouiller. C'est un petit peu le sentiment qu'avait Job. Puis on attend la mort avec impatience et puis voilà, puis après de l'autre côté, c'est super. Alors il y a de ça évidemment, mais le texte nous invite aussi à concevoir cette vie non plus comme les animaux, mais déjà, comme l'homme qui s'émerveille devant la femme. Je m'explique. Si vous acceptez de vous abandonner à Dieu, c'est la foi, hein, comme disent les apôtres, augmentons-nous la foi. Si vous acceptez de croire, parce que c'est la vérité, que Dieu nous précède, que Dieu est à nos côtés, même si nous ne le voyons pas, que Dieu sait ce qu'il fait, c'est la foi, l'abandon à Dieu. Cet abandon qui est comme une mort à nous-mêmes, c'est ce que dit Paul, le baptême, c'est être plongé dans la mort du Christ pour être ressuscité en lui, c'est la mort du moi. Relisez saint Paul, si vous acceptez cette mort du moi, moi égoïste, hein, vous voyez, centré sur soi-même et pour vous abandonner à Dieu, déjà vous ferez l'expérience, vous passerez de la vie animale à la vie humaine dans ce texte. C'est-à-dire vous n'aurez plus de rapport par rapport à cette vie de dominé, dominant, mais déjà vous verrez une union profonde entre cette vie et ce qui vous attend. La vie éternelle aura déjà commencé. Vous serez déjà sur le mode de la vie éternelle. C'est-à-dire fini les animaux, dominés, tout ça. Déjà, vous pourrez vous exclamer, cette vie-là que je vis sur terre, c'est déjà l'os de mes os, la chair de ma chair. Il y a déjà unité. Ça ne fait plus qu'un entre la vie éternelle du ciel et la vie sur terre. Ça ne fait déjà plus qu'un. Vous vivez plus, comment dire, une rupture avec la mort, mais la mort n'est que un passage, une continuation, mais un accélérateur. Voilà. Cette vie, vous vivez déjà la vie éternelle, vous passez par l'accélérateur. Disons, on vous débarrasse des dernières choses pour que vous voyez bien les choses pleines et entières. Mais c'est la même vie qui continue, avec une plus grande plénitude. Et c'est ça que ce texte nous appelle à voir aussi en profondeur. C'est au-delà de sommeil de la mort, et évidemment, où les choses sont plus pleines, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, déjà en profondeur. Il y a cette unité profonde entre la vie de maintenant et la vie du paradis. Et ben cette unité s'appelle vie éternelle, qui commence déjà maintenant. Si maintenant nous voyons déjà par une vie de prière, de lecture de la parole, qui nous donne les yeux nécessaires pour voir autre chose que le matériel, la lecture de la Bible, si nous voyons les choses comme ça, eh bien alors nous quitterons ce rapport dominé-dominant, hein, où cette vie nous semble, nous sommes comme des animaux, si vous voulez. Et nous nous émerveillerons déjà devant l'action de Dieu, parce que nous la verrons déjà, parce que nous aurons accepté de mettre des lunettes qui nous montreront que Dieu est déjà là. Et nous vivrons déjà de ce mode de vie d'abandon à Dieu, de ce sommeil mystérieux, ce mode de vie auquel nous serons appelés à vivre de manière plus pleine avec la vie au paradis. Mais cette vie éternelle, il faut accepter de ne faire plus qu'un avec. La vie sur terre est, hein, si vous voulez, symboliquement. Vous avez la vie maintenant, et puis vous avez la vie éternelle, la vie au ciel. Eh bien, il faut accepter de regarder cette vie éternelle, cette vie au ciel, comme ne faisant plus qu'un avec ce qu'on vit déjà maintenant. Et alors nous pourrons nous émerveiller en disant, mais c'est la même chose que je vis déjà maintenant. Donc la mort deviendra, on attendra, alors avec impatience, ça serait bien, ça ne nous empêche pas de vivre pleinement cette vie ici, bien sûr, mais avec moins d'appréhension. Car ne l'oublions pas, l'épître aux Hébreux nous dit que la raison pour laquelle Christ est venu, c'est de nous libérer de la peur de la mort. Donc la façon d'y arriver, c'est cet abandon mystérieux, c'est-à-dire cette vie de foi et d'abandon à Dieu, qui va vraiment faire l'unité entre cette vie matérielle qui parfois semble manquer de sens, c'est ce qu'a expérimenté Job et tout l'Ancien Testament, pour passer à la vie que nous donne le Nouveau Testament, qui nous montre en profondeur l'unité qu'il y a entre cette vie maintenant et la vie dans le ciel, parce qu'elle ne fait qu'un, ça s'appelle la vie éternelle, qui a déjà commencé quand nous avons rencontré le Christ. Voilà. Alors je vous propose un dernier petit temps de prière. Oui Seigneur, vraiment, montre-nous ce qu'est la vie éternelle. Apprends-nous que vraiment nous sommes appelés à vivre déjà dès maintenant de cette vie d'abondance dont tu nous parles. Apprends-nous vraiment à nous abandonner à toi et que par cet abandon, nous comprenions vraiment à quoi nous sommes appelés vraiment en plénitude après la mort et qu'ainsi notre crainte de la mort soit apaisée. Amen. Alors je vous propose de relire le texte une dernière fois et après on fera une petite prière pour que ce texte soit assimilé grâce à l'Esprit. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide pareille qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Voilà, avant de prier une dernière fois pour que cette lecture soit une véritable nourriture que nous la digérions, je ferai remarquer que nous sommes appelés à quitter cette vision bien matérielle, hein, quitter son père et sa mère, pour vraiment basculer vers la vie éternelle et ne faire plus qu'un avec elle, dans le sens où je l'expliquais tout à l'heure. Changeons aussi notre façon de voir et d'aimer, c'est ce que je dis aussi. Voilà, alors je vous propose cette prière. Oui Seigneur, donne-nous l'intelligence plus clair et je te prie vraiment de nous donner, comme je l'ai dit, une intelligence plus claire de tes autres prophéties, c'est-à-dire de d'autres passages d'écriture que nous avons lus, et ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré, notamment là dans ce texte. En toi Christ Jésus notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Eh bien, merci, chers amis internautes, et à la prochaine fois. Voilà, fin de l'enregistrement.